Bonjour, on va parler d'investissement aujourd'hui et plus particulièrement d'investissement dans l'immobilier avec Nathalie Cariou. Bonjour Nathalie Cariou.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier aux éditions Erol, Investir dans l'immobilier pour devenir rentier. Ceux qui vous connaissent, vous publiez régulièrement des vidéos qui ont beaucoup de succès sur Internet dans le domaine de l'investissement. Vous êtes coach en intelligence financière. Votre métier est finalement de développer des formations autour des finances personnelles, de ce que vous appelez, ce que vous qualifiez de liberté financière. Il y a des séminaires qui sont organisés, ce sont des méthodes que vous partagez. Là, votre livre se concentre exclusivement sur l'immobilier. Alors, on va rester sur cette question, évidemment, de l'immobilier, Nathalie Cariou. D'abord, la première question, on est tenté de se dire parfois qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, que l'immobilier, c'est quand même, tout le monde y va, un peu comme des moutons, c'est pas très rassurant quand même, parce que c'est finalement là où les gouvernements, d'une manière générale, ont le levier fiscal le plus facile. Ils peuvent faire exploser les taxes foncières, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent en matière de fiscalité, puisque là, c'est pas délocalisable.
C'est tout à fait vrai.
Que répondez-vous à cette inquiétude ?
Alors, c'est vrai que l'immobilier est rarement délocalisable, on pourrait dire que c'est son point faible, qu'effectivement, il peut y avoir une tentation de la part de l'État de récupérer un petit peu d'argent avec des taxes foncières ou autres. Je réponds généralement qu'il y a immobilier et immobilier. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans l'immobilier, et c'est d'ailleurs le pourquoi de ce livre, c'est quand on est dans de l'immobilier que je vais appeler traditionnel, à savoir j'achète un bien que je mets en location pour une famille, de manière, donc généralement je dis c'est vous achetez des murs que vous repeignez en blanc et que vous mettez en location pour une famille, c'est sûr que c'est l'immobilier qui rapporte peu, premièrement, et c'est l'immobilier qui est très fiscalisé, deuxièmement. Donc c'est pas forcément celui que je préconise, parce que pour devenir rentier avec ça, il va falloir se lever de bonne heure, ou il va falloir en faire beaucoup, ou il va falloir avoir une sacrée assise financière pour pouvoir acheter encore. Par contre, il y a effectivement d'autres manières d'investir dans l'immobilier qui sont beaucoup plus rentables et paradoxalement beaucoup moins fiscalisées.
Alors, on a trop tendance à penser que c'est facile. Hein. Il suffit d'aller à la banque, de faire un prêt. On vous accorde le prêt pour acheter un deux pièces. On va louer le deux pièces. On va encaisser les loyers. Est-ce finalement ce mirage qui attire des millions de Français vers l'immobilier? Et ils s'aperçoivent, comme tous les mirages, que la source d'eau qu'ils croyaient voir, eh bien, n'est pas réelle.
Alors, c'est effectivement peut-être ce mirage qui attire les Français. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres raisons pour faire de l'immobilier. Il y a, en tout cas, pour être attiré par l'immobilier, il y a le côté pierre, il y a le côté matière qui fait que c'est plus facile de concevoir de l'immobilier que de concevoir de la bourse, par exemple, pour un certain nombre de personnes. Donc, il y a tout ça qui fait que l'immobilier peut attirer. Il y a effectivement une réalité qui est que quand on arrive à la retraite, je pense que c'est bien d'avoir de l'immobilier, pas forcément sa résidence principale, mais d'avoir de l'immobilier. Donc, il y a plein de raisons pour aimer l'immobilier. J'aime l'immobilier, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Après, est-ce que c'est facile? La réponse est non. D'abord parce que qui dit rentabilité, dit qu'il va parfois falloir mettre un petit peu de sueur, donc un petit peu d'énergie, un petit peu de temps, en tout cas s'en préoccuper, que déjà chercher un bien, ça prend du temps. Donc, il y a déjà l'obstacle du temps, c'est-à-dire même sans parler du banquier qui prête ou qui prête pas, il y a déjà l'obstacle du temps qui fait que pour un certain nombre de personnes, on va être en mode oh, « bah oui, mais ça prend du temps, mais quand même, entre guillemets, c'est fatigant, donc je n'y vais pas » ou alors j'ai l'illusion que ça va se mettre en place tout seul et puis en fait, je me rends compte que ça se met pas en place tout seul quand même et qu'il va falloir y consacrer un petit peu de temps. Donc ça, c'est une des premières illusions qui tombe. Après, il y a effectivement le banquier. Donc le banquier, je sais pas si c'est simple d'aller voir le banquier et lui dire « Coucou, donne-moi des sous », surtout en ce moment parce que les conditions sont un petit peu plus strictes. Maintenant, et c'est aussi le pourquoi de ce livre, c'est que autant il y a peut-être des personnes qui sont en mode mirage, autant il y a pas mal de personnes qui se disent « Ça n'est pas pour moi ». Je ne peux pas parce que je ne suis pas en CDI, je ne peux pas parce que je n'ai pas de revenus fixes, je suis entrepreneur, je ne peux pas parce que j'ai déjà dépassé mon taux d'endettement parce que j'ai acheté ma résidence principale ou que sais-je. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se tiennent à l'écart d'une solution qui pourrait être néanmoins une solution d'autonomie, une solution d'indépendance. Effectivement, je parle de liberté financière. L'immobilier, il est fait pour ça. C'est une solution de revenu automatique, puisqu'effectivement, même s'il faut y mettre un petit peu d'énergie, ça donne des revenus qui ne sont pas des revenus du salariat, qui ne sont pas des revenus d'activité. Et c'est plutôt sympathique dans les temps qui courent.
Finalement, vous avez écrit ce livre pour inspirer sans doute des personnes qui se sentent exclues, qui se sont auto-exclues finalement, parce qu'elles se sont dit « j'ai plus de 60 ans, donc on m'accordera plus de crédit, j'ai plus de 50 ans », ou « j'ai été malade il y a 10 ans, ça y est, je suis sur une liste noire ».
Absolument.
Il y a beaucoup de facteurs autobloquants, hein, c'est ça.
Oui, il y a beaucoup de facteurs autobloquants, il y a beaucoup de gens qui se bloquent, et même sans rentrer dans les considérations aussi, alors oui, effectivement, il y a l'âge...
Aussi caricatural que je viens de lancer. Oui.
Non, pas tant que ça, parce qu'effectivement, c'est des choses que je vais traiter dans le livre volontairement, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes les options. D'ailleurs, il y a dans ce livre des options qui ne sont pas forcément très traditionnelles, dans le sens où on s'aperçoit qu'il y a d'autres manières de faire de l'immobilier que en achetant une maison. On peut être intermédiaire de l'immobilier, on peut faire plein de choses autour de l'immobilier qui permettent de développer soit une activité, soit une passion, soit des revenus, donc en tout cas de faire quelque chose qui nous plaise. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi tout simplement des personnes qui croient qu'ils ne gagnent pas assez et qui n'ont jamais osé aller pousser la porte de la banque, par exemple.
Oui, alors il y a aussi la capacité d'emprunt. C'est une inquiétude qui revient très fortement, Nathalie. Une personne qui a déjà 1, 2, 3 crédits se dit « ma capacité d'emprunt, elle est explosée ». Vous traitez de ce sujet dans
Oui, tout dans à fait. Livre. Donc là, on va rentrer sur des choses de type association, on va rentrer donc association entre personnes, on va rentrer sur d'autres modes qui permettent d'exploser la capacité d'emprunt, en tout cas de dépasser les limites, on va parler de SCI, on va parler de société, on va parler de la CRL de famille, il n'y a pas que la SCI, on va parler de plein de choses qui font que on peut aller plus loin qu'on ne croit. Et je crois que c'est vraiment le message, c'est de dire on s'arrête avant la limite réelle. Bien sûr qu'il y a sûrement une limite, il y en a tout le temps, mais la limite réelle de je ne peux plus est bien plus loin que celle que l'on se fixe d'habitude. Et je dirais peut-être que la limite réelle, c'est la limite de notre imagination, en réalité.
Nathalie Cariou, qui est coach en intelligence financière, qui publie aux éditions Erol « Investir dans l'immobilier pour devenir rentier ». Voilà, c'est quelques conseils pratiques. Vous répondez à beaucoup de questions. Il y a un point qui fait l'actualité en ce moment dans le domaine de l'immobilier, et je voulais avoir votre avis là-dessus, Nathalie Cariou, c'est cette fameuse loi climat avec le DPE. Certains réseaux immobiliers, professionnels d'immobilier, me disent par exemple que tous les biens qui sont en G ne trouvent plus preneur, que les propriétaires ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont acheté il y a 5 ans un bien en G, on va dire à 300 000 euros, ils se disent, allez, on va le vendre à 300 000, sans faire de plus-value même. Allez, même si c'est à 310 000. Et les gens viennent les voir en leur disant, ça vaut 200 000 pour moi, parce qu'il y a des travaux et c'est en G. Il y a un mouvement de panique un peu dans l'immobilier autour de cette loi climat. Qu'en pensez-vous ?
Alors oui, il y a un mouvement de panique. Bon, alors, d'une part, on pourrait rassurer effectivement les personnes en disant, attention, la loi climat va commencer à entrer en vigueur réellement en 2028, donc on n'y est pas tout à fait encore. Se dire que, en réalité, je ne pense pas qu'elle verra le jour exactement comme elle a été écrite aujourd'hui, pour la bonne et simple raison que les réseaux immobiliers sont en train de se rendre compte qu'il y a 8 millions de logements qui seraient en dehors de la.
Ce que vous dites, c'est les chiffres de la FNIM, de l'UNIS,
voilà,
des principaux
exactement.
Réseaux.
Et donc, 8 millions, pour qu'on se rende compte, ça fait grosso modo entre 30 et 40% du marché locatif. C'est énorme, c'est pas juste 5% qui se promènent comme ça, c'est un bon tiers du marché locatif qui tout d'un coup pourrait disparaître parce que les logements ne seraient plus, ne seraient plus considérés comme décents. Alors, bien sûr que on pourrait dire, les propriétaires n'ont qu'à faire des travaux. D'accord. Très franchement, dans un certain nombre de cas, les travaux sont totalement irréalistes au niveau financier. C'est-à-dire que vous avez 10, 20 000 euros de travaux à faire pour un studio qui va se louer, 400 euros, vous faites assez vite le calcul, ça veut dire qu'il vous faut entre 4 et 5 ans pour couvrir les travaux. Donc pendant 4 à 5 ans, vous n'avez strictement rien gagné sur votre immobilier locatif. Donc ce qui veut dire que peut-être, et ça c'est une bonne aubaine pour des primo-accédants, les logements vont être mis en vente et certains pourront les acheter moins cher. Après, forcément, la tendance, c'est de se dire, je vais pouvoir acheter moins cher, donc je vais pouvoir acheter, entre guillemets, pas cher du tout. Donc, comme vous dites, le logement qui a été payé 300 000 euros, peut-être que quelqu'un va vouloir le négocier 200 000. Et à ce moment-là, le vendeur va dire, je ne le vends plus. Donc, il y aura pas de vente et il y aura pas de location. Donc, on va être sur un marché qui va probablement être assez vite bloqué. Effectivement, les agents immobiliers que je rencontre me disent que actuellement c'est un petit peu compliqué parce que dès qu'on tombe sur du F, dès qu'on tombe sur du G, les gens commencent à paniquer. Effectivement, les critères se sont durcis. Alors, ce qui fait qu'il y a aussi incompréhension, c'est ça. C'est-à-dire que vous citiez une personne qui a acheté il y a quelques années elle n'était pas en G, elle était en D, et là, elle est passée en F ou en G, parce que les critères ont changé.
Oui, c'est vrai aussi.
Voilà, et c'est surtout
durci,
ça, en fait.
Oui. Ça s'est durci, ça les derniers durci. Critères de l'été. Oui.
Exactement, les diagnostics sont opposables, donc les diagnostiqueurs sont encore plus vigilants, encore plus précautionneux, sont sur la défensive, ce qui est tout à fait logique. Donc
en clair, pour les auditeurs qui écoutent, opposable, ça veut dire que devant la justice, si jamais il y a un litige, un problème financier, ils vont devoir rendre compte. Donc ils ont plutôt intérêt. Moi, je suis diagnostiqueur, on me dit, je vois un bien en F, je sais bien que ça ne se fait pas comme ça, hein, au doigt mouillé. Moi, je vais plutôt le mettre en G, hein, comme ça, je dis, j'aurai pas d'embrouille.
En tout cas, je vais me couvrir au maximum pour effectivement, si je suis en F, je suis en F. Et ce dont on se rend compte, et là aussi où il y a panique et où il y a peut-être colère d'un certain nombre d'investisseurs, c'est que, alors, vous achetez une maison ancienne. En fait, il y a trois cas. Soit vous achetez une maison du siècle dernier ou du siècle même avant-dernier, et en réalité, vous vous rendez compte que le diagnostic n'est pas du tout, il ne sait pas traiter les murs de 1m50, si vous voulez. Vous avez fait une forteresse moyenâgeuse, vous avez acheté votre forteresse moyenâgeuse, il y a des murs d'1m50. En réalité, au niveau isolation, c'est pas mal. Mais le diagnostic n'en tient pas compte parce que vous n'avez pas la laine de verre qui va au-dessus. Donc, il y a un problème quand même pour les très vieux bâtiments. Pour les bâtiments entre 1950 et maintenant, c'est assez cohérent effectivement, on a construit à un moment donné des choses qui n'étaient pas du tout isolées, donc c'est tout à fait cohérent de faire ces diagnostics. Et puis, il y a le neuf ou le pas très ancien, c'est-à-dire des choses qui ont été construites il y a peut-être 5 ans, 3 ans, que les gens ont acheté il y a 3 ans, il y a 5 ans, et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas en A non plus. Ils arrivent avec des choses qui sont neuves sur un diagnostic énergétique C ou D. Alors, on me dirait C ou D, ça n'empêche pas de louer, ça n'empêche pas de vendre, on est bien d'accord, mais il y a une espèce d'incompréhension.
Déception.
De déception et d'incompréhension qui dit, j'ai acheté il y a 2 ans, j'ai acheté il y a 3 ans, j'ai acheté un truc qui, a priori, était aux normes, qui était neuf, qui était aux normes actuelles, et en fait, je me rends compte que les normes actuelles, elles ne me permettent pas d'avoir un A ou d'avoir un B, elles me permettent éventuellement d'avoir un C. Et bien évidemment, ça crée de la désillusion, ça crée de la déception, ça crée de la colère par rapport à ce DPE qui aujourd'hui n'est pas très bien emmanché.
Enfin, je voulais finir sur votre métier. En quoi cela consiste d'être coach en intelligence financière ? C'est-à-dire, vous amenez les gens à avoir un peu de bon sens dans la gestion de leur argent, c'est pas naturel, voilà.
On pourrait dire ça. Alors, effectivement, c'est pas culturel, c'est pas répandu. Figurez-vous qu'on n'apprend pas l'argent à l'école. Donc, ça veut dire qu'on vit avec une ressource, avec une matière que l'on croit connaître.
C'est très simple, il faut dépenser moins que ce que l'on gagne. Ou dépenser autant que ce que l'on gagne maximum.
Alors, voilà. Déjà, ça peut être plus simple à dire qu'à faire. Ensuite, effectivement, on a une société qui nous oblige ou qui nous incite beaucoup à dépenser, pas vraiment à investir, pas vraiment à s'occuper de son argent. Donc, en réalité, je faisais une comparaison l'autre jour, puisque c'est en ce moment, le pétrole était au cœur d'un certain nombre de préoccupations. Je faisais la comparaison avec les hydrocarbures, en disant, les hydrocarbures, ça fait plein de choses, et entre autres choses, ça peut brûler dans une voiture ou dans une chaudière. Et on en a trop brûlé dans une chaudière ou dans une voiture, sans se rendre compte que ça faisait aussi plein d'autres choses intelligentes. Et l'argent, c'est à peu près la même chose. On nous a appris que l'argent, ça pouvait servir à un truc, c'est à être dépensé. Je vais me faire plaisir, je vais acheter des vacances, je vais acheter un mobilhome, je vais acheter à manger parce que je suis obligé de manger, un home cinéma, etc. Donc, ça, on nous a appris que ça pouvait être dépensé. C'est une des fonctions de l'argent, ça sert à ça. Mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Et ces plein d'autres choses, on les a oubliées. À investir, à se créer de la sécurité, à faire qu'on a plusieurs sources de revenus, à se créer de la rente, à faire que... alors, c'est pas tant le problème de devenir riche, il y a certaines personnes qui ont envie de l'être, mais très bien, mais c'est le problème de pouvoir changer de métier quand on en a envie, payer des études à ses enfants quand on en a envie, partir éventuellement faire un tour du monde si on en a envie, changer de voie, etc., etc., plus tous les aléas de la vie qu'on n'avait pas prévu. Et donc ça, c'est effectivement savoir s'occuper de son argent, savoir le gérer, savoir l'investir, se réconcilier avec. Il y a plein de personnes qui sont tout bêtement fâchées avec l'argent, avec les riches, parce que les riches sont des méchants.
Ça, c'est culturel en France, oui. Voilà.
Ouais,
le riche ça marche. Est un salaud, oui.
Voilà, ça marche assez bien en France. Et donc,
ça a changé, ça dépend aussi. C'est-à-dire qu'on respecte quand même, on respecte quand même la fortune qui a été bâtie. Je vais parler de grands capitaines, de gens qui ont commencé avec leurs mains, des gens comme, on va dire, Francis Bouygues, Marcel Dassault. Ça sont des richesses respectées. Ça sont des richesses respectées.
Oui, on respecte le courage et l'effort. Donc effectivement, qui a abouti à une fortune, et on va effectivement respecter ça, plus ou moins, parce qu'il y a toujours un peu, les riches, ils n'ont qu'à payer plus, ils n'ont qu'à payer plus d'impôts, ils n'ont qu'à payer pour les autres. Et à un moment donné, effectivement, c'est même pas que c'est pas une bonne idée, c'est que économiquement, ça ne résoudrait pas grand-chose, un peu, mais pas grand-chose. Je ne suis pas contre, mais je pense que ça ne résout rien. Et donc effectivement, il faut apprendre ça aussi, c'est-à-dire à se réconcilier suffisamment avec l'argent pour que l'argent, il ait envie de rester dans votre porte-monnaie, quoi, quelque part. Parce que tant que vous êtes fâché, vous mettez en place des choses qui inconsciemment fait que vous restez dans une position où vous n'avez pas suffisamment d'argent. Donc c'est vraiment aider les gens à reprendre la responsabilité totale de leur situation financière. Savoir que on nous a beaucoup appris que quelque part notre situation financière c'était trouver un boulot, et que trouver un boulot ça nous permettrait de vivre bien. Et puis il y a des gens qui s'aperçoivent que tout compte fait c'est pas vrai, parce que l'entreprise qui les a embauchés, à un moment donné il dit j'ai plus besoin de vous, et à ce moment-là on se rend compte que notre situation financière n'a que partiellement à voir avec notre travail. Et effectivement, quand on travaille, ça rapporte de l'argent, on est bien d'accord, ça c'est OK. Mais c'est pas tout. Ça, c'est comment on gagne l'argent, mais après, il y a qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, l'intelligence financière, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper correctement de mes finances, pour peut-être me donner plus d'options, plus de choix, d'où cette idée de liberté financière, avec la possibilité de changer de vie si j'ai envie de changer de vie, de faire face aux aléas, parce que ça peut quand même servir un petit peu, et puis changer de parcours, et puis me donner de la sécurité, parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de mes finances pour que mes finances travaillent pour moi tout le reste de ma vie.
Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même un peu, hein, au XXIe siècle surtout. Voilà.
Peut-être un peu plus qu'un peu, oui.
Nathalie Cariou, merci. Vous publiez donc aux éditions Erol, Investir dans l'immobilier pour devenir rentier. C'est votre nouveau livre, donc Investir dans l'immobilier pour devenir rentier. Et Nathalie Cariou, je rappelle que vous êtes coach en intelligence financière. Vous développez des formations autour des finances personnelles, de ce que vous appelez la liberté financière. On peut vous retrouver notamment via votre site Les Clés de la Réussite. On tape sur Internet aussi. On va mettre le lien aussi. Merci Nathalie Cariou.
Merci à vous.